Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse et le Nouvelliste. Au programme, COP15 à Montréal, biodiversité et droits des femmes. La promesse d'un frère pour la petite. Et il est temps que le Canada finance le traitement avancé du diabète. Bonne écoute.
COP15 à Montréal, biodiversité et droits des femmes. Un texte d'opinion de Sabah Khan et Shi Tao Zhang, paru le 15 décembre 2022 dans la presse. Sabah Khan est directrice générale pour le Québec et l'Atlantique à la Fondation David Suzuki et Shi Tao Zhang est coordonnatrice de projet à la Fondation David Suzuki. En décembre 2022, des représentants des gouvernements et de la société civile se sont réunis à Tiotiake, Mouniyang, Montréal, pour négocier un accord international visant à stopper et à inverser le déclin catastrophique de la biodiversité. Les attentes étaient élevées quant à l'émergence d'un cadre ambitieux avec des objectifs et des cibles collectifs mondiaux pour 2030. La violence à l'égard des femmes étant en hausse dans le monde entier, le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 doit affirmer fermement l'égalité des sexes en reconnaissant explicitement l'égalité des droits des femmes et des filles et leur accès à la terre et aux ressources naturelles, ainsi que leur participation équitable et significative à la gouvernance de la biodiversité et à l'élaboration des lois. Les négociateurs de la COP15 ne pouvaient ignorer le fait que la dégradation des écosystèmes naturels a des impacts sexo-spécifiques et que l'autonomisation des femmes et des filles partout dans le monde, en particulier celles qui sont autochtones et celles qui vivent dans les pays du Sud, est primordiale pour remédier efficacement à la perte de la biodiversité. Les femmes représentent plus de 40% de la main-d'œuvre agricole et 47% de la main-d'œuvre de la pêche dans le monde, mais elles représentent moins de 20% des propriétaires terriens. Un récent rapport des Nations Unies indique que dans au moins 102 pays, les femmes se voient refuser les droits de propriété terrienne en vertu de lois coutumières, traditionnelles ou religieuses. Elles sont également surreprésentées dans les emplois précaires, mal payés et parfois non rémunérés, avec moins de droits légaux que les hommes. Moins d'accès au crédit, moins de droits territoriaux, moins d'accès aux structures décisionnelles et aux sphères de gouvernance. Elles représentent 70% des personnes les plus pauvres du monde et sont donc particulièrement touchées par la destruction écologique qui restreint l'accès aux ressources alimentaires, énergétiques et hydriques de base. La perte de la biodiversité, les changements climatiques, la dégradation de l'environnement, l'épuisement des ressources et les déplacements de population exacerbent les inégalités sociales et économiques existantes. En 2018, l'ONU a indiqué que 80% des personnes déplacées par des catastrophes environnementales étaient des femmes. Nous savons également que la violence à l'égard des femmes a augmenté à la suite de catastrophes climatiques. Au Pakistan, les violences sexistes telles que les agressions sexuelles, la traite des êtres humains et les mariages forcés ont augmenté de 80% après que des inondations dévastatrices ont forcé 33 millions de personnes à fuir leur domicile en 2022. Les industries minières présentent des risques critiques pour les femmes. Au Canada, l'exploitation des combustibles fossiles est profondément liée à la perte de la biodiversité et à la violence contre les femmes. Le rapport du gouvernement du Canada sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées identifie les camps de travailleurs, non autochtones, embauchés pour construire des pipelines sur les terres autochtones, appelés « camps d'hommes », comme un facteur substantiel de l'augmentation des agressions sexuelles et des meurtres de femmes, de filles et de personnes bispirituelles autochtones. Selon Justice and Corporate Accountability Project, JCAP, les sociétés minières en Amérique latine, dont 41% sont enregistrées au Canada, ont régulièrement fermé les yeux sur les brutalités perpétrées par leurs employés contre les femmes locales. Les guerres et les campagnes militaires endommagent également de manière irréversible les écosystèmes et les paysages naturels à l'aide d'explosifs, de métaux lourds et de véhicules polluants, et soumettent les femmes et les filles locales à des abus et à des meurtres, parfois en guise de tactique. Les réalités de la dégradation des écosystèmes et des changements climatiques montrent que la réforme des lois sur la biodiversité et le climat doit donner la priorité et devenir des vecteurs de protection et de consolidation des droits des femmes et des filles à la vie et à l'accès à la nourriture, à l'eau, à l'assainissement, à la terre, au logement, à l'éducation et à un travail décent. Pourtant, à tous les niveaux de l'élaboration des lois et de la gouvernance environnementale, les femmes ont été sous-représentées. Face à la triple crise de la perte de biodiversité, des changements climatiques et de la violence sexuelle et sexiste, les femmes et les filles du monde entier sont confrontées quotidiennement à des violations de leurs droits fondamentaux. Les forums internationaux de prise de décision tels que la COP15 doivent faire de la place aux femmes autochtones et des pays du Sud. Ce n'est qu'avec leur participation active et en position d'autorité que la communauté internationale pourra réussir à mettre en œuvre des mesures efficaces pour stopper et inverser la perte de la biodiversité. L'autonomisation des femmes et des filles est au cœur de nombreuses solutions qui doivent être mises en œuvre immédiatement pour régler les dettes écologiques et climatiques que les pays du Nord doivent au Sud. Pendant trop longtemps, les intérêts militaires et commerciaux ont dirigé les réponses à la perte de biodiversité et au changement climatique, alors que les femmes et les filles étaient en première ligne des luttes pour la justice environnementale et climatique. Il est temps que cette incohérence prenne fin. C'était COP15 à Montréal, biodiversité et droits des femmes. Un texte d'opinion de Sabaa Khan et Shitao Zhang, paru le 15 décembre 2022 dans La Presse.
La promesse d'un frère pour la petite. Une chronique d'Isabelle Légaré, parue le 24 décembre 2022 dans Le Nouvelliste. À la maison, sans être tabou, le sujet n'était pas vraiment abordé. C'était comme ça à l'époque. On n'en parlait pas ou c'était fait de façon détournée. Jean-François Morin comprenait toutefois ce à quoi sa mère faisait allusion lorsqu'elle disait à ses quatre enfants réunis à l'occasion d'un repas en famille « Le jour où je ne serai plus là, la petite ne sera pas capable. » Il se doutait bien qu'en faisant cette réflexion, la dame espérait secrètement que quelqu'un réagisse autour de la table. Jean-François ne faisait pas semblant de n'avoir rien entendu. Tout naturellement, il s'empressait de la rassurer. « Maman, ne vous cassez pas la tête avec ça. Je vais en prendre soin. » C'est vrai que Marie-Christine n'est pas très grande. Mais ce n'est pas pour cela que ses parents l'ont toujours appelée la petite, même lorsqu'elle est devenue une adulte. La femme au cœur d'enfant est la plus jeune de la progéniture de Lucille Beaumier et de Dionis Morin, à qui leur seul fils a fait cette promesse au moment de les accompagner successivement jusqu'à leur dernier souffle. Ils pouvaient compter sur lui pour s'occuper de Marie-Christine. Cette histoire n'est pas un conte de Noël, mais le portrait d'un frère, d'une sœur et d'une belle-sœur qui incarne la générosité du cœur 12 mois par année. Marie-Christine Morin laisse échapper un rire timide lorsque je lui demande son âge. Elle a 58 ans. Tout le monde me dit que ça ne paraît pas. Récemment, Marie-Christine a emménagé dans son premier appartement qu'elle a décoré à son image. L'endroit est sympathique, accueillant et chaleureux, avec, sur le mur d'entrée, une photo encadrée de ses parents, puis, sur la porte du frigo, celle de son frère et de sa belle-sœur. Tout le monde est là, et il ne pourrait en être autrement. Ces gens sont au centre de son existence. Avant de franchir cette importante étape qui consiste à avoir son propre chez-soi, la femme, ayant une déficience intellectuelle, avait toujours vécu avec sa mère et son père. Après leur décès, c'est Jean-François et sa conjointe, José Saint-Pierre, qui lui ont ouvert leurs portes et leurs bras. Fidèle à la promesse faite à ses parents, son grand frère continue de veiller sur elle avec amour et loyauté. Quand j'étais petite, avant mes 2 ans, je suis grimpée et je suis tombée tête première, m'explique Marie-Christine lorsque je lui demande de me parler de ce qui la rend différente des autres membres de sa famille. Jean-François me sourit avant d'apporter cette nuance. Ce n'est pas la cause majeure. Marie-Christine est une enfant prématurée. Il y avait déjà une déficience à sa naissance. Elle l'écoute attentivement avant d'ajouter, le ton taquin, « Une chance que j'ai un frère, j'en ai juste un. » Et à ses côtés, cette petite sœur prend son envol. Lucille et Dionys aimaient profondément Marie-Christine, autant que leurs 3 autres enfants. Mais si on recule de près de 60 ans en arrière, la société ne favorisait pas l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Le couple évitait de parler de l'état de leur fille. Lorsque des visiteurs se présentaient chez les Morand, on demandait à Marie-Christine de se faire discrète, craignant qu'elle puisse les déranger. Pour la génération de mes parents, avoir un enfant différent, c'était un peu comme une honte. Ils se sentaient coupables, rappelle Jean-François, qui n'est surtout pas en train de les juger. Lucille et Dionys s'étaient laissés à eux-mêmes, sans véritable soutien pour aider leur fille à s'épanouir. L'inclusion était un concept encore abstrait au milieu des années 60. Les gens avec une déficience intellectuelle étaient peu encouragés à prendre leur place. La stigmatisation était davantage leur réalité. Avant, il n'y avait pas les services nécessaires pour s'occuper d'eux. Aujourd'hui, on les rencontre un peu partout, sur des plateaux de travail et dans les commerces, donne en exemple Jean-François Morand, qui se réjouit de cette ouverture à leur égard. Le frère de Marie-Christine a toujours été un grand sportif, plus souvent sur un terrain de jeu qu'à la maison. Dès l'âge de 17 ans, celui qui s'est fait connaître sur un parcours de golf et sur la glace de curling a quitté le foyer familial pour poursuivre ses études. « J'ai appris très vite à me débrouiller », reconnaît le directeur général du club de golf Sainte-Flore à Shawinigan. Poursuivons avec la lecture de « La promesse d'un frère pour la petite », une chronique d'Isabelle Légaré parue le 24 décembre 2022 dans le Nouvelliste. Jean-François n'a pas eu la même jeunesse que sa sœur, qui a fréquenté des classes spécialisées jusqu'au début de l'adolescence, avant de rester à la maison avec sa mère, qui est devenue sa meilleure amie. Elles étaient très proches, toujours ensemble, ajoute-t-il avec affection pour les 2 femmes. Mère et fille jouaient aux cartes, allaient marcher dans les rues du quartier, faisaient l'épicerie et le ménage ensemble, regardaient leurs émissions de télé préférées. Lorsque Lucille est décédée en 2010, sa fille a continué d'habiter au domicile familial. Et puis, comment ça va avec Marie-Christine? Demandait Jean-François chaque fois qu'il voyait son père. Mon meilleur chum, souligne-t-il. Elle est à la maison, on s'arrange bien, lui répondait Dionys. Comme Lucille, il savait que son fils allait tenir parole le jour venu. L'homme est décédé en 2014, 4 ans après son épouse. Comme promis à ses parents de leur vivant, Jean-François a accueilli Marie-Christine sous son toit. Pour son grand frère, il n'était pas question de la placer dans une autre famille que la sienne. « J'ai une sœur dont je vais prendre soin un jour. » C'est ce que Jean-François Morin avait dit à José Saint-Pierre au moment de devenir un couple, il y a 13 ans. La femme aurait pu tourner les talons face à cette importante responsabilité, mais les deux amoureux étaient faits pour se rencontrer. Pour elle aussi, c'était l'évidence même que sa nouvelle belle-sœur occupait déjà une place essentielle dans sa vie. Cette ouverture à l'autre était la suite logique de sa relation avec son ancien voisin, un homme ayant une déficience intellectuelle et dont José avait été la gardienne lorsqu'il était un enfant. Jean-François avait promis à son père qu'il prendrait soin de Marie-Christine. « Je lui ai dit, go, on l'amène avec nous. » Nous nous sommes préparés en allant chercher de l'aide, raconte José qui a développé une grande complicité avec sa belle-sœur, qui l'aime comme une deuxième mère. Tout un chacun a dû s'adapter. Jean-François et José avaient leur travail, en plus d'être des bénévoles très engagés dans leur communauté. Contrairement à Lucille, ils ne pouvaient pas rester en permanence auprès de Marie-Christine qui, à l'aube de la cinquantaine, n'avait jamais vraiment fréquenté des organismes œuvrant auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle. Accompagnés d'une intervenante, Jean-François et José ont entrepris des démarches pour qu'elle puisse intégrer l'école des adultes, un plateau de travail et diverses activités visant à développer son plein potentiel. On ne voulait pas que Marie-Christine vive dans la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mentionne Jean-François avec fierté pour sa sœur, qui a surmonté ses appréhensions pour sortir graduellement de sa zone de confort. Elle a habité avec son frère et sa belle-sœur pendant un peu plus de 7 ans, jusqu'à tout récemment. Depuis quelques mois, Marie-Christine a une nouvelle clé en main, une vraie qu'on insère dans une serrure avant d'ouvrir la porte sur d'infinies possibilités. Son frère et sa belle-sœur ne sont pas étrangers à cette autonomie qui s'offre à elle. Jean-François Morin et José Saint-Pierre sont au nombre des parents d'adultes qui ont travaillé fort ces dernières années pour mettre sur pied le projet d'appartement supervisé « J'ai mon appart » à Shawinigan. À 58 ans, Marie-Christine est la doyenne des locataires et l'une des plus actives. Elle prend l'autobus toute seule pour aller où bon lui semble, sort avec des amis, est une employée appréciée à son plateau de travail, poursuit avec ténacité ses apprentissages à l'école, est une redoutable joueuse de quilles aux Olympiques spéciaux. Marie-Christine découvre le monde. Elle est heureuse comme c'est pas possible, constatent Jean-François et José avec ravissement. Lucille et Dionys peuvent reposer en paix. La petite a un avenir rempli de promesses. C'était « La promesse d'un frère pour la petite », une chronique d'Isabelle Légaré, parue le 24 décembre 2022 dans Le Nouvelliste. tant que le Canada finance le traitement avancé du diabète, un texte d'opinion de Dylan McKay, paru le 20 décembre 2022 dans le Nouvelliste. Dylan McKay a le diabète de type 1 et est professeur adjoint de nutrition et de maladies chroniques à l'Université du Manitoba. Il s'est écoulé 101 ans depuis qu'on a découvert que l'insuline permettait aux personnes atteintes de diabète de type 1 de survivre. Aujourd'hui, c'est aussi la meilleure époque de l'histoire pour être aux prises avec le diabète de type 1. Il faut seulement avoir les moyens de se procurer la technologie. Peu de gens au Canada ont un régime public ou privé qui couvre ou peut couvrir les frais des systèmes technologiques. Je suis l'une de ces personnes chanceuses. Avant même que je me réveille le matin, une prise de mesure de ma glycémie est effectuée et pendant que je dors, les résultats sont envoyés à mon téléphone doté d'un logiciel qui m'avertira si ma glycémie est trop élevée ou trop basse. Ce n'est pas tout. L'algorithme de la pompe à insuline en boucle fermée de mon téléphone peut changer la quantité d'insuline que la pompe me donne pour éviter que mon taux de glycémie se situe hors des limites acceptables. Le plus beau de tout ça, c'est que je peux continuer de dormir pendant tout le processus et me réveiller frais et dispo. Cette technologie est rendue possible grâce à la mise au point des systèmes de surveillance du glucose en continu, SGC. Le SGC est un dispositif portable qui vérifie la glycémie de la personne à des intervalles de quelques minutes, jour et nuit. Cette technologie a changé ma vie et celle de beaucoup d'autres personnes atteintes de diabète de type 1 et leurs soignants. Avant la venue des SGC, il fallait mesurer sa glycémie en se piquant le bout d'un doigt avec une aiguille métallique pointue pour obtenir une goutte de sang que l'on déposait sur la bandelette d'un appareil appelé glucomètre. Personne n'aime ça, parce que le bout des doigts est très sensible et qu'au final, on a mal au bout des doigts toute la journée, tous les jours. On a aussi tendance à vérifier sa glycémie seulement quelques fois par jour. La personne atteinte de diabète de type 1 qui prend en charge sa glycémie agit un peu comme le capitaine d'un gros paquebot. Elle doit faire des modifications à sa trajectoire bien avant que ce soit nécessaire, sinon c'est la catastrophe. L'utilisation du glucomètre équivaut en fait à manœuvrer le paquebot les yeux fermés. Le système de surveillance du glucose en continu nous ouvre les yeux. Il est très important de connaître son taux de glycémie et de savoir s'il est à la hausse ou à la baisse, parce que bien que l'insuline soit un médicament fantastique qui nous maintient en vie, c'est une substance incroyablement dangereuse. Chaque fois qu'une personne prend de l'insuline, elle risque une chute de glycémie ou hypoglycémie, qui est une cause fréquente des visites à l'urgence des personnes qui ont un diabète de type 1. Non traitées, elles peuvent en mourir. L'utilisation du SGC s'est révélée très efficace pour réduire la période pendant laquelle la glycémie est faible. L'opposé de l'hypoglycémie est l'hyperglycémie, un état qui, à long terme, est directement lié à un risque accru de crise cardiaque ou d'insuffisance rénale. Le SGC est également utile dans ce cas-ci, puisqu'il augmente la période pendant laquelle le taux de glycémie de la personne ayant un diabète de type 1 reste dans les limites appropriées. Malheureusement, ce dispositif coûte entre 3 000 et 6 000 $ par année. La plupart des régimes d'assurance maladie et d'assurance médicaments provinciaux et territoriaux ne couvrent pas ces frais. Les rares qui le font appliquent souvent des conditions relatives à l'âge. Le Manitoba, par exemple, paie les frais du SGC, mais seulement aux personnes de moins de 25 ans. Cependant, les personnes qui ont un diabète de type 1 vieillissent elles aussi. Que sont-elles censées faire pendant le reste de leur vie? Bon nombre de régimes d'assurance privée ne couvrent pas non plus les frais de SGC. Je travaille à temps plein comme professeur d'université et le système n'est pas couvert par notre régime. Heureusement, j'ai la chance de pouvoir le payer de ma poche. Sans couverture, le SGC coûte simplement trop cher pour la plupart des Canadiens atteints de diabète de type 1. À l'heure actuelle, le Yukon est le seul endroit au Canada où les systèmes de surveillance du glucose en continu sont couverts. Toutes les personnes atteintes de diabète de type 1 bénéficient de cette couverture. Et je parie que la province voit une diminution des visites aux urgences, une baisse des coûts à long terme pour le soin des personnes atteintes de diabète de type 1 et des gens plus heureux, plus en santé et plus productifs. Le régime d'assurance médicaments promis depuis longtemps par le gouvernement fédéral n'est encore que des paroles en l'air, puisque rien ne garantit que le SGC sera inclus dans le régime si jamais il est mis sur pied. En attendant, le reste du Canada doit suivre l'exemple du Yukon. Si les provinces et les territoires travaillaient ensemble, les coûts des SGC diminueraient et tout le monde au Canada en profiterait. C'était « Il est temps que le Canada finance le traitement avancé du diabète », un texte d'opinion de Dylan McKay, paru le 20 décembre 2022 dans le Nouvelliste.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau et Lynn Lamarche à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.